Toucher Terre, Émilie Glory, sur Radio Grand Ciel.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Toucher Terre, le magazine qui prête voix à la nature chaque mois sur Radio Grand Ciel.
Dès qu'il se mit à marcher le long des rails, la voix lui apparut toute rayonnante. Les rails reflétaient invraisemblablement le ciel bleu. Il se perdait dans un lointain rectiligne. Les talus étaient semés de fleurs intactes, coquelicots, linéaires et vipérines, dont il avait appris les noms à l'école, mais qui semblaient étrangères à tous les noms tellement elles étaient pures. Le soleil inondait les cailloux du ballast qui brûlaient malgré la fraîcheur du vent léger. Gabriel oubliait tout. Les maisons de berme, pas très loin, défilaient tandis qu'il avançait, et il les croyait à 100 lieues. Par cette belle et incertaine matinée, il s'agissait d'autre chose, de quelque aventure située dans un autre temps et dans un autre espace. Entre les fleurs roses, les rails se perdaient dans une campagne renouvelée. Les nuages s'entr'ouvrirent bientôt d'ailleurs, et une lune blanche apparut à l'angle d'un pan d'azur alors que le soleil demeurait masqué. « Rien n'existe, en vérité, » se disait Gabriel, « que ce qui apparaît ici ou là. »
J'ai choisi d'ouvrir ce numéro de juin par cet extrait du Train du matin, roman d'André Dautel, écrivain du merveilleux, amoureux des petits riens et surtout du grand tout. Naturaliste amateur, amateur de nature, il l'a mise au premier plan ou en toile de fond, mais elle est toujours, dans ses romans, un personnage à part entière. Il célèbre aussi bien la forêt, la plaine, le bocage et les rivières, que les terrains vagues, les friches et les talus. On ne pouvait rêver meilleur parrain pour cette émission qui fera la part belle aux belles plantes et aux herbes folles. Celles qui ont besoin d'un petit coup de pouce et celles qui préfèrent n'en faire qu'à leur tête. Elles ont en commun de passer inaperçues à cause de leur taille, de leur aspect, de leur rareté ou à l'inverse de leur supposée banalité. Comme les personnages d'André Dautel, nous prendrons le temps aujourd'hui de les rencontrer. Au sommaire de cette émission, des plantes à croquer avec Patrick Mullet de l'association Eure-et-Loir Nature. Et une interview de Vincent Albouy et d'André Fouquet pour la sortie de leur guide « Faune des villes » aux éditions Delachaux et Niesley. Avant cela, retrouvons Benoît Allard, responsable de l'antenne eurélienne du Conservatoire d'espaces naturels Centre Val-de-Loire. De retour en studio, Benoît vient nous parler de l'extraordinaire travail de l'association sur les sites dont elle a acquis la gestion au fil des ans. 30 ans, précisément, qui sont fêtés cette année. Même si les débuts des festivités ont été bousculés, nous allons pouvoir, enfin, célébrer comme il se doit les nombreux accomplissements du conservatoire et de ses équipes. Parmi eux, la découverte ou la redécouverte de certaines espèces de plantes qui ont bénéficié des plans de gestion conçues et mises en œuvre par l'association. Certaines ont refait une apparition quasi miraculeuse, plus d'un siècle après avoir disparu des inventaires départementaux. Benoît, bonjour.
Bonjour Émilie.
C'est une joie de vous retrouver en studio. Vous êtes le premier à revenir nous voir. Alors les 30 ans du conservatoire, nous en avons parlé dans cette émission bien sûr avec Sylvain Garbard et Antoine Beck. Une année de célébration pour votre association qui a été quelque peu perturbée par la pandémie liée au nouveau coronavirus. Certains événements ont été annulés, d'autres reportés. Alors vous avez voulu aujourd'hui relancer la dynamique déjà en nous confirmant la reprise progressive des activités du conservatoire et puis ensuite en nous proposant un petit retour en arrière sur certaines des plus belles réalisations du conservatoire dans notre département. Mais d'abord donc, les affaires reprennent, Benoît, l'activité redémarre.
Oui, alors, comme tous, on a été perturbé par ce virus qui nous est arrivé dessus sans prévenir. Il a fallu qu'on s'adapte déjà au niveau de l'équipe salariée et ça s'est plutôt bien fait techniquement, on va dire. Alors, c'est vrai que par rapport à l'année de fête qu'on souhaitait démarrer un peu en fanfare dès ce début d'année pour nos 30 ans, évidemment, ça n'a pas été l'idéal. Donc, bon, pour autant, en effet, il reste encore des grands moments à vivre et c'est le principal, notamment le point d'orgue finalement de l'année qui sera le congrès des conservatoires en septembre à Tours, où on accueillera tous nos collègues qui sont dans les autres conservatoires de France. Donc oui, les activités ont repris. Alors elles ont repris notamment en termes d'inventaire naturaliste sur différents sites en Eure-et-Loire à partir de mai. On n'avait finalement pas d'urgence à retourner sur les sites avant le mois de mai puisque la végétation n'était pas nécessairement trop développée, même si le printemps était plutôt sympathique. Les animations ont redémarré en Eure-et-Loire la semaine dernière, samedi dernier, et voilà, vont se remettre en place. On a essayé déjà de confirmer celles qui étaient prévues à partir de maintenant et essayer de replacer en fait celles qui ont été annulées dans le reste de l'année pour permettre quand même à tous les secteurs de bénéficier d'animation.
Alors dans des conditions particulières, évidemment, il y a quelques consignes à respecter.
Alors oui, évidemment, un protocole qui a dû être réfléchi et instauré. On limite du coup le nombre de participants à 9 avec l'animateur, on arrive à 10. On espère que ce nombre va évoluer avec les nouvelles phases de déconfinement. Le masque est obligatoire du coup pour protéger à la fois les animateurs et les participants. Et puis les gestes barrières que tout le monde connaît bien maintenant, qui sont respectés également. La grosse nouveauté du coup, c'est qu'elles sont toutes gratuites. On évite du coup de la circulation de monnaie. Donc voilà, c'est un avantage pour cette année.
Excellente nouvelle.
Les animations sont gratuites pour tous.
Très bien. Alors, 30 ans, eh bien, c'est un âge avancé pour une association. Peu d'entre elles durent aussi longtemps. Et si vous pouvez fêter cet anniversaire cette année, c'est grâce à l'action très concrète du conservatoire sur les sites qu'il gère. Impossible, bien sûr, de rendre compte en détail de cette action. Alors, eh bien, vous m'avez proposé de l'illustrer à travers trois exemples particulièrement éclairants. Avant d'entrer dans les détails, ce qui réunit ces exemples, eh bien, c'est la pertinence de la gestion suivie, c'est-à-dire vraiment sur une longue durée, qui permet à la fois de réhabiliter des sites naturels et puis ensuite de les regarder évoluer, vivre, d'être surpris aussi par leur richesse qui finalement est sans cesse renouvelée.
Oui, alors c'est vrai qu'en 30 ans d'expérience et 30 ans de travail, alors le conservatoire Centre-Val de Loire n'est pas le premier à avoir été créé, hein, loin de là. Le premier, pour rappel, c'est 1976 en Alsace. Et là, le nôtre est arrivé qu'en 1990, même si ça fait déjà 30 ans. On a, dès le départ, en fait, dès les toutes premières années de création, l'objectif des personnes qui ont motivé cette création a toujours été d'essayer de travailler sur la durée pour essayer de préserver ces espaces naturels sur le très long terme. En créant ces conservatoires, finalement, outils fonciers, voilà, on voit que finalement, 30 ans après, ça amène un résultat plus que pertinent. On est à presque 140 sites en région, presque 4000 hectares. C'est des chiffres qui sont finalement forts en termes de préservation, et ce d'autant plus avec la situation qu'on a connue maintenant et à travers laquelle on voit que la préservation de ces espaces joue un rôle extrêmement important sur la biodiversité à l'échelle locale, mais aussi à l'échelle planétaire.
Alors entrons dans le concret avec vous, Benoît, en prenant la direction tout d'abord du nord de notre département. On a parlé déjà dans cette émission des fameuses pelouses sèches. Alors qu'est-ce que ce bilan que vous nous proposez nous apprend sur ces espaces? Qu'est-ce que le conservatoire a pu apporter par sa gestion? Parce qu'il y a une gestion qui est très particulière pour ces pelouses.
Oui, en fait, on est sur des habitats qui sont déjà très peu représentés en termes de surface. On est plutôt sur des micro-zones un peu cachées dans les coteaux secs. Et donc, on va dire qu'on a deux grandes solutions en termes de gestion, soit la mise en place d'un pâturage, ce qui se faisait finalement un peu historiquement. On avait aussi certains secteurs qui pouvaient être cultivés ou plantés en vigne. On retrouve encore certains vestiges de ces terrasses. Donc l'objectif pour nous étant de laisser ces zones les plus ouvertes possibles. On a deux méthodes finalement. Soit on utilise l'animal à travers une gestion plus douce, entre guillemets, soit le mécanique à travers des engins adaptés au broyage et à l'exportation de la matière. On va dire que les éléments se croisent à deux niveaux. On a à la fois un objectif d'assurer l'entretien et la restauration des milieux qu'on gère et en même temps de développer en parallèle finalement ce réseau de sites préservés pour permettre aux espèces de circuler d'un site à l'autre et de ne pas se focaliser uniquement sur une microzone. On va dire que là, ces dernières années, on a eu l'occasion de travailler avec de nouveaux partenaires communes ou d'acheter de nouveaux sites, ce qui permet au final de maîtriser une bonne partie des territoires sur lesquels il y a les plus forts enjeux en termes de biodiversité, ce qui est déjà une très très bonne chose. L'idée sera ensuite de voir comment on peut relier tous ces éléments-là. Et finalement, à travers les actions qu'on mène au quotidien, outre ce volet maîtrise, on a parfois en effet des belles découvertes ou des belles redécouvertes d'espèces. J'ai deux exemples là que je vous propose de présenter. Le premier se passe sur la côte de Montreuil, qui est un des sites historiques du conservatoire. On a acheté les premières parcelles il y a plus de 20 ans maintenant. Alors on avait démarré avec un peu moins d'un hectare. Aujourd'hui, on en maîtrise 12. Donc ça montre aussi là le travail qui a été mené depuis 20 ou 25 ans. Et on travaille également à proximité de ce site avec Haute-Paris pour les accompagner sur la gestion de leurs parcelles. Et dans le cadre d'une animation nature qui a été menée en 2019, dans le cadre des Journées du patrimoine, où en fait c'est l'occasion d'aller visiter leur site de production de pompage d'eau, on a retrouvé une plante qui est typique des pelouses et qui n'avait pas été revue en Eure-et-Loire depuis 1866, donc là on parle même plus d'un siècle, mais bien plus encore, qui est un aster, l'aster Loniziris. Et à l'époque de 1866, on avait juste une mention dans les herbiers ou dans les livres anciens qui disait que cette plante était abondante sur la lisière de la forêt de Dreux, donc c'était déjà à peu près dans la zone où on était, au sommet du coteau de la commune de Montreuil.
Très localisé.
Donc voilà, c'était déjà à l'époque, les naturalistes avaient cette facilité à nous pointer les éléments en donnant des éléments d'information sur la géographie. Pour autant, on avait eu beau chercher et regarder, on ne l'avait jamais retrouvé. Et là, je pense que c'est du fait d'avoir accompagné Haute-Paris et qu'ils aient mis en place une gestion adaptée finalement sur leur site. En gros, ils ont redémarré un broyage avec exportation à la bonne période. Ça a permis de redynamiser finalement le coteau et de retrouver ce type d'espèce qu'on croyait clairement disparue. Donc voilà, c'est un exemple. Alors, on savait que c'était un secteur à très fort enjeu, donc ça montre que quand on met une gestion qui est bien adaptée, on peut avoir en effet ces espèces qui reviennent ou qui s'expriment à nouveau. Alors là, c'est vraiment après presque 150 ans, c'est une grande découverte de l'année dernière. Ce n'est pas la seule en fait découverte sur ce secteur-là, puisque sur la commune qui est de l'autre côté de la forêt par rapport à Montreuil, sur la commune de Boncourt, sur laquelle on travaille depuis là aussi très longtemps, sur la réserve naturelle régionale de la vallée des Cailles. En fait, dans le cadre d'une étude qu'on mène en partenariat avec l'agglo du pays de Dreux, sur justement ces pelouses sèches calcicoles, l'objectif c'est de donner une idée sur leur état de conservation à l'échelle de l'ensemble du territoire de l'agglomération. En fait, en faisant cette étude l'année dernière, sur un site qui était pour le coup pas du tout connu, ni en zone naturelle inventoriée, ni en protection Natura 2000, du coup on est tombé sur le Libanotis des montagnes, qui était une espèce aussi présumée disparue en Eure-et-Loire. Alors là, ça a permis d'informer le propriétaire de la parcelle qu'il y avait du coup cette espèce-là. Là aussi, c'était un coteau qui était entretenu notamment par du pâturage depuis un certain nombre d'années, qui a permis du coup de préserver cette plante. Donc on va dire que un de nos objectifs maintenant, ça va être de travailler avec le propriétaire pour voir si on peut mettre en place une gestion vraiment bien adaptée pour permettre, pourquoi pas, à cette espèce de s'exprimer encore plus sur le site.
Ce sont deux exemples qui indiquent toute l'importance de la gestion de ces sites par le conservatoire. Alors, autre enjeu important, la préservation des zones humides. On en parle à tous les niveaux, international, national et puis bien sûr local, et notamment donc à travers la tourbière des Froux. Alors, peut-être pour resituer par rapport à nos auditeurs, c'est quoi une tourbière ?
Alors, une tourbière, c'est une zone humide très particulière qui est surtout identifiable avec la végétation qui la compose et principalement des sphaignes, donc une espèce de mousse, pour faire très simple. Les bryologues vont m'en vouloir, mais voilà, sur le principe, on va essayer de faire
simple. Une espèce de mousse.
Voilà. Mais qui a une capacité de rétention d'eau vraiment très très forte. Et en fait, Ces tourbières, finalement, sont composées d'une accumulation de tourbe se développe et se décompose au fil du temps. Et en fait, on est sur des zones qui sont gorgées d'eau, finalement, avec une épaisseur de tourbe plus ou moins importante. Alors pendant de très très nombreuses années en France et à travers le monde, encore aujourd'hui, la tourbe est utilisée parfois pour se chauffer, et donc il y avait des extractions de tourbe qui pouvaient être faites. Ces milieux, au fur et à mesure, ont un peu perdu de leur surface à toutes les échelles. On est sur des milieux qui sont vraiment extrêmement rares. Hein. C'est des milieux qu'on a presque pas sur le reste du département d'Eure-et-Loir. Et donc, comme on est à proximité de la forêt domaniale de Senonche et que c'est une forêt communale, enfin que c'est une propriété communale, il y a l'ONF du coup qui travaille avec nous sur cette préservation en lien avec la commune de Manou. L'ONF a classé le site en réserve biologique dirigée. Donc, on est sur un site qui est protégé avec une on va dire presque le niveau le plus important de protection des forêts.
J'allais vous dire, qu'est-ce que ça change pour vous, ce classement ?
Alors, pour nous, pas grand-chose. C'est plutôt sur la préservation du milieu en tant que tel, où ça amène un aspect réglementaire. Et donc, ça limite encore plus, on va dire, les possibilités d'intervention. Donc, on est vraiment sur un objectif de préservation assez fort. Sur cette zone-là, en fait, alors les tourbières sont habituellement des zones plutôt ouvertes. Elles finissent un peu à la fois par se boiser, notamment par le bouleau. Mmh. Le bouleau, c'est une espèce d'arbre qui est particulièrement colonisatrice et qui s'installe finalement en premier sur les espaces qui sont un peu laissés en développement naturel. Et donc, on a réussi à maintenir au fil du temps une zone suffisamment ouverte pour permettre du coup de maintenir une zone intéressante par rapport à la faune et à la flore de ces milieux humides. Un des objectifs du coup de la mise en place de la gestion, c'était là aussi du pâturage, alors pas avec le même type de race de chevaux que sur d'autres sites, puisqu'on est sur un milieu humide, avec une portance assez faible. Donc évidemment, on ne peut pas mettre des animaux trop lourds ni non adaptés aux zones humides. Donc on a plusieurs solutions, mais jusqu'à présent, on utilisait des Konik Polski, qui sont des petits chevaux polonais qui fonctionnaient très bien. Là, on va sûrement s'orienter vers des chevaux camargués, qui sont aussi habitués de toute façon à avoir le bout des pattes dans l'eau.
Pas de percheron.
Le percheron, il peut essayer d'y rentrer. Je ne suis pas certain qu'il sortira de la tourbière du coup facilement. Donc, voilà, on est plutôt sur des petits chevaux. Et donc, pendant un certain temps, en fait, on a fait un test. On a divisé la zone ouverte en deux. On a mis en place du pâturage d'un côté et de l'autre, on a mis en place une gestion mécanique. L'objectif pour nous, c'était de voir un petit peu comment le milieu réagissait et finalement, quel était celui qui présentait le plus d'intérêt. Et en 2013, Sylvain Garbard, que vous avez déjà eu l'occasion d'écouter, se promenait sur le site pour voir un petit peu ce que donnait le résultat de la gestion. Et il a vu une toute petite plante au pied d'un touradon de Moligny, qui est une plante qui a tendance à bien se développer sur la tourbière. Et puis en cherchant un peu, il s'est rendu compte que... il s'est questionné. Il voulait en être certain d'abord, mais... En fait, c'était une petite plante carnivore. Alors, on a souvent des plantes carnivores dans les tourbières. Et là, c'était une petite plante carnivore qui s'appelle la grassette du Portugal, qui, elle aussi, était mentionnée dans le Perche, mais était mentionnée en 1906 et n'avait pas été revue non plus dans ce coin-là depuis cette période.
Là encore, c'est une belle victoire.
Voilà, une plante qui est protégée régionale, du coup. Et la première question qu'on s'est posée, c'est d'abord, est-ce que finalement, ce ne sont pas les chevaux qui l'ont ramenée ? En ayant des graines éventuellement au niveau des sabots. Alors comme ces chevaux ne pâturaient que sur la tourbière des Frous et depuis très longtemps, il n'y avait pas de raison que ce soit eux qui les ramenaient. Par contre, du fait du piétinement en fait, des chevaux entre les touradons, ça recréait finalement des zones un peu plus ouvertes, un peu plus humides, qui ont permis du coup à la grassette de s'exprimer. Et depuis 2013, on suit, nous, le développement du coup de la plante et elle se porte très bien.
Voilà, j'allais dire, elle n'a pas redisparu.
Non, elle n'a pas redisparu. On l'a encore vu samedi dernier dans le cadre d'une animation. Donc, voilà, c'est plutôt une grande réussite. Et bien, techniquement, qu'est-ce que ça implique derrière pour nous en termes de perspective ? Le choix a été fait avec les partenaires ONF communes et puis le parc naturel régional de détendre en fait la zone pâturée, c'est-à-dire d'élargir, de créer un nouvel enclos pour les chevaux et finalement d'entretenir la majeure partie de la zone ouverte avec le pâturage. Pour permettre en fait à ces espèces de revenir. On espère que d'autres espèces de plantes carnivores reviendront aussi, puisqu'il y a la drosera qui pourrait être potentiellement là. Donc on espère qu'en En développant le pâturage à une autre échelle, on permettra de retrouver d'autres espèces encore.
C'est un signe de la bonne santé du site, parce que ce sont des plantes qui sont particulièrement vulnérables par rapport au changement.
Alors, c'est assez complexe de pouvoir l'indiquer. Preuve en est, finalement, les graines ont subsisté plus d'un siècle avant de s'exprimer à nouveau. On est sur des milieux très particuliers qui ont capacité à retenir les graines et les pollens pendant très 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 longtemps. Donc, on va dire qu'on a plutôt un milieu qui a une capacité à se redynamiser assez importante. Et si on crée les conditions qui permettent aux espèces de s'exprimer, elles pourront le faire à nouveau. Donc ça, c'est vraiment l'objectif qu'on s'est donné.
Très bien. Alors, nous avons évoqué ensemble déjà le plan MAR du conservatoire. Un succès plébiscité par les communes rurales du département pour préserver leur patrimoine naturel. Et on a vu ensemble que souvent, eh bien, c'était le seul patrimoine naturel pour certaines communes. Alors là encore, les inventaires offrent de belles surprises.
Oui, alors la plupart du temps, quand une commune nous sollicite, on les accompagne à travers un avis et des conseils par rapport à la gestion des mares, et on en profite du coup pour faire des inventaires naturalistes. On va dire que ce n'est pas nécessairement les milieux vers lesquels les naturalistes se tournent en premier, sauf à écouter les grenouilles et les crapauds et à pouvoir dire qu'en effet ces espèces sont présentes. C'est d'autant plus simple qu'elles s'entendent, donc c'est plus facile. On entend un peu moins les plantes, on entend un peu moins les libellules. Pour autant, on peut en effet avoir des belles découvertes. Donc, au niveau de la faune, c'est vrai que sur les amphibiens du type triton, c'était des espèces finalement qui n'étaient pas nécessairement très très connues sur ces milieux. Et donc depuis 2008, on a largement développé la connaissance de ces habitats au niveau de la faune présente, et notamment des amphibiens du type triton. Alors, on a réussi à trouver un certain nombre de stations de tritons ponctués, qui est un des amphibiens les plus rares de la région. Au niveau des odonates, c'est pareil, on a un certain nombre d'espèces animales qui sont petites. Les libellules sont des espèces qu'on ne voit pas nécessairement toujours. On voit plutôt les grosses libellules parce qu'on les voit plus facilement voler. Mais les petits agrillons qui font quelques centimètres, on les voit un peu moins. Et alors là, ça augmente la difficulté parce que certaines espèces se ressemblent énormément. Et donc, en fait, il suffit d'avoir un petit point de couleur pour faire ça différent. On passe d'une espèce très banale à une espèce ultra patrimoniale.
Ah oui,
et en fait, quand on arrive sur une mare et qu'on a 50 individus qui volent, on voit surtout celle qui est très banale. Et il faut juste avoir un peu de chance aussi parfois pour trouver celle qui est un peu moins visible. Donc voilà, c'est des éléments qui permettent au fil du temps finalement d'apporter une connaissance beaucoup plus importante à l'échelle du département. Et si on croise ça avec tous les naturalistes qui le font, et ils ne sont pas non plus légion, on n'est pas 3000 à faire de l'inventaire de libellules en Eure-et-Loire, ça permet quand même d'affiner grandement les éléments. Pour rester sur la flore, puisque là aussi c'était une belle découverte en 2018, je suis tombé du coup sur une mare en pleine campagne, en fait, gérée de façon très douce. Parce que du coup, comme elle était hors commune, il n'y avait pas un besoin, on va dire, visuel d'intervenir de façon importante. Et c'est de façon rarement le cas, mais on va dire qu'au plus on est au cœur des bourgs, au plus les habitants, les élus pensent que c'est nécessaire d'intervenir plus. Je suis tombé sur une station d'étoile d'eau. Alors l'étoile d'eau, c'est une plante qui est protégée nationale, qui est extrêmement rare, qui peut pousser parfois de façon très isolée dans des zones de culture qui pourraient être un peu inondées parfois. Hop, à ce coup, elle se développe. Et là, elle était au pied d'une berge dans une mare. Je ne l'ai pas vue tout de suite. Et puis, quand je l'ai vue, ça m'a fait particulièrement plaisir. Et du coup, pour l'anecdote, il y avait le voisin qui me suivait ce jour-là pour voir un petit peu ce que je faisais. Et ça avait été l'occasion pour moi de lui expliquer que dans la mare communale qu'il avait... Juste à côté de chez lui, il avait un trésor. Alors, il avait déjà des trésors parce qu'il y avait déjà des tritons qui étaient présents, mais en plus, une plante protégée nationale. Encore une fois, le fait de savoir que les espèces sont présentes, ça nous guide et ça nous aide dans les choix stratégiques qu'on fait derrière en termes de gestion. Alors, un, ça peut nous rassurer en nous montrant que la gestion qu'on réalise est bien celle adaptée au milieu, puisque du coup, les espèces patrimoniales soit perdurent, soit réapparaissent. Et pour celles où on doit mettre en place une gestion et donc pour lesquelles il faut définir finalement ce qu'on va faire, Et bien là, ça nous permet d'avoir des éléments pour affiner cette gestion et bien l'adapter aux besoins de ces différentes espèces.
Orienter le fameux plan de gestion. Exactement. Auquel on revient toujours. Alors Benoît, pour terminer cet entretien, rappelons peut-être que le meilleur moyen de se rendre compte du travail du conservatoire, eh bien, c'est d'aller visiter ces sites, de découvrir ces trésors, comme vous le dites vous-même. Et pour cela, donc, la bonne nouvelle, c'est la reprise des animations. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit agenda de ce qui nous attend dans les semaines qui viennent?
Oui, avec plaisir. Juste avant ça, dans le cadre de nos 30 ans, du coup, on a un livre qui a été édité pour revenir sur... alors, pas nécessairement les 30 ans d'action. Le but, ce n'était pas de faire un livre historique, c'était plutôt un livre de découverte des espaces naturels. Donc, comme il sera en vente en librairie, sortie officielle le 16 juin, voilà, je profite... De l'antenne pour en informer, donc au prix de 25 €, avec un prix adhérent à 20 € pour les adhérents du conservatoire. Voilà, c'est un livre qui permet de présenter finalement l'ensemble des milieux naturels présents à l'échelle de la région, à travers à la fois les sites et les partenariats qui sont en place, partenariats techniques ou financiers. Je profite aussi, et je vous donnerai quand même les éléments liés aux animations, mais de cette émission pour remercier aussi l'ensemble de nos partenaires financiers, du coup, et ce d'autant plus dans cette situation complexe liée au virus, qui nous ont accompagnés et ont fait ce qu'ils pouvaient pour essayer de faciliter les paiements liés aux conventions qu'on a en cours, hein, donc notamment le conseil départemental d'Eure-et-Loir et la plupart des agglomérations aux communautés de communes avec qui on travaille, qui du coup nous ont permis de limiter, on va dire, les problématiques de trésorerie du conservatoire. Donc c'est important aussi de bien indiquer à chaque fois que toutes ces actions ne se font pas si on n'a pas ces partenariats en place pour financer nos actions. Donc merci à eux. Et du coup, au niveau des animations, alors comme je le disais en introduction, le programme d'animation qui était prévu va se poursuivre à partir de maintenant. Donc toutes les dates qui étaient prévues vont avoir lieu. Mmh. Ensuite, on a essayé de remettre celles qui ont été annulées à d'autres moments, donc en gros entre juillet et septembre. Donc là, les prochaines, le 20 juin, on a une sortie sur le NS de la Vallée de l'Eure, au niveau des prairies de Luisan. Le 24 juin, avant ça, on a... une découverte des mares communales au niveau de La Ferté-Vidame. Donc c'est un site qui est préservé en lien avec la commune. Et le 27 juin, on aura une animation sur Senonche au niveau de l'étang de l'île. Et puis ensuite, durant tout juillet, août, vous aurez tout le loisir d'aller aussi profiter, dans la limite jusqu'à présent de 9 personnes. On espère vraiment que ce nombre augmentera au fil du temps. Parce que du coup, ça limite malgré tout le nombre de personnes qui peuvent y participer.
Après, on a quand même une... nécessaire de réserver.
Alors, de toute façon, c'est sur inscription. Et on va dire qu'on a une offre suffisamment importante d'animation, je pense, pour que chacun, par rapport à son territoire de vie, puisse au moins bénéficier d'une animation gratuite, je répète, en cette année 2020.
Eh bien, merci beaucoup pour ces informations complètes, Benoît. On vous retrouvera très bientôt à ce micro. À bientôt.
À bientôt.
Merci Benoît Allard pour ces bonnes nouvelles botaniques. Comme quoi l'action sur la nature peut aussi rimer avec reconstruction et diversification. Longue vie à ces 4 belles plantes dont je vous rappelle les noms et dont vous trouverez les photos sur la page internet de l'émission. L'Aster linosiris, le Libanotis des montagnes, la Grassette du Portugal et l'Étoile d'eau. Que d'exotisme dans nos contrées! Si vous n'avez pas eu le temps de noter les prochaines sorties nature avec le conservatoire, attrapez donc un crayon pour noter qu'elles auront lieu les après-midi des samedis 20 et 27 juin prochains. Au programme, une balade bucolique dans la prairie de Luisan et la découverte de l'étang de l'île à Senonche. Deux sites différents qui possèdent chacun leur trésor caché. Renseignements et réservations au 02 37 28 90 91. Je vous conseille de le faire rapidement, car, Benoît l'a rappelé, les sorties sont pour le moment limitées à 9 participants. Vous devrez bien sûr respecter les consignes sanitaires en vigueur et porter un masque. La bonne nouvelle, c'est que ces sorties sont gratuites pour tous. Vous trouverez plus d'informations sur la page de l'émission. Et puis n'oubliez pas le livre qui sort à l'occasion des 30 ans du Conservatoire d'espaces naturels Centre Val-de-Loire. Il s'intitule « Regard sur la nature en Centre Val-de-Loire » et il est disponible dans toutes les bonnes librairies euréliennes pour la somme de 25 euros et 20 euros si vous avez la bonne idée d'être adhérent du Conservatoire. Je vous l'accorde, Benoît et moi, nous avons été un peu bavards. Avant de retrouver Patrick Mullet pour un menu végétal des plus étonnants, prenons donc une pause nature. C'est encore une petite carte postale signée Pascal Duyck que j'aimerais vous faire découvrir. Cette fois, direction la vallée de l'Eure, avec comme interprète vedette une fauvette. Vous retrouverez les sons de la semaine de Pascal Duyck sur son site internet Mémotopique. Le lien est sur la page de l'émission Touche Terre. Poursuivons donc notre balade juniale en compagnie de Patrick Mullet de l'association Eure-et-Loire Nature. Patrick, comme beaucoup de nos amis naturalistes, a plusieurs cordes à son arc. Mais son domaine de prédilection, ce sont les plantes sauvages comestibles. Comment et où les trouver ? Comment les cueillir et comment les cuisiner ? Nous allons poser toutes ces questions à Patrick. Ou comment l'expression buffet campagnard prend tout son sens ? Bonjour Patrick.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous en studio. Alors, les plantes sauvages comestibles, c'est un sujet qui est revenu sur le devant de la scène écolo depuis plusieurs années. Oui. On trouve aujourd'hui des tas de livres, des tutos sur Internet, des ateliers et j'en passe. Mais j'ai bien dit revenu sur le devant de la scène parce que consommer des plantes sauvages, ça date pas d'hier.
Non, ça date pas d'hier. Disons, je pense que depuis bien avant le néolithique ou paléolithique, déjà les hommes consommaient des plantes sauvages, puisqu'il n'y avait que des plantes sauvages, il n'y avait pas de plantes cultivées à l'époque. Les premières plantes cultivées, disons, sont arrivées au néolithique, mais les gens continuaient la cueillette des plantes, des fruits, etc. Donc, et puis à l'époque, c'était une manne alimentaire très intéressante, puisque quand on venait de passer un hiver un peu à se serrer la ceinture et à manger un peu léger, et qu'il fallait, disons, au beau jour, reprendre des activités, notamment pour l'agriculture qui était naissante à cette époque-là, et bien, il fallait de l'énergie. Et l'énergie, on la trouvait surtout dans les plantes. Et il fallait se refaire une santé en consommant des plantes sauvages. On dira les noms plus tard.
Ah, on donnera quelques exemples, évidemment.
Alors, qui sont en fait gorgés d'énergie.
Oui, parce que j'allais dire, il y a des vertus alimentaires, mais il y a aussi des vertus au niveau de la santé.
Absolument. Ben oui, beaucoup de plantes sont des plantes médicinales. Lorsque, effectivement, je fais quelques animations, quelques présentations sur les plantes, j'insiste beaucoup sur le fait que les plantes sont un patrimoine naturel, mais c'est aussi un patrimoine historique, puisque comment les hommes ont su que ces plantes-là soignaient telle maladie, comment ces plantes-là avaient telle propriété, étaient de très bons aliments. Ça, c'est une expérience humaine extraordinaire et très longue.
Ça fait partie de la culture, en fait.
Et ça fait partie de la culture. Et c'est quelque chose que, qu'on a tendance à perdre.
Habitude, elle s'est perdue aujourd'hui, mais oui. C'est plutôt récent, finalement, parce que nos grands-parents consommaient des plantes comestibles.
Non, justement, nos grands-parents, déjà, on était dans l'ère agricole un peu agressive et qui déjà, on avait tendance à les rogner, ces plantes-là. Et puis là, elles reviennent, effectivement, comme vous le disiez, sur le devant. Et alors, si on remonte un peu plus dans l'histoire, c'est assez étonnant, c'est de voir qu'il y a des ouvrages sur les plantes comestibles sauvages qui sont sortis, et bizarrement, au moment de la guerre de 14-18 et au moment de la guerre 39-40. Vous voyez ? Donc ça, c'est... Alors, effectivement, c'est parce que ces plantes-là étaient... Bon, elles sont liées à la guerre, elles sont liées à la disette. Et puis, moi, ce que j'essaye de montrer, c'est que elles sont liées aussi au plaisir, au goût. Parce que c'est des goûts qu'on ne connaît pas ou qu'on le retrouve, peut-être.
Alors, qu'est-ce qui peut expliquer que soudain, le sauvage est devenu indésirable dans nos assiettes, voire même un petit peu suspect ? On est un peu méfiant maintenant quand on mange des plantes.
Absolument, ouais. Ça, c'est étonnant. Je pense que pareil, c'est culturel. Hein. C'est une espèce de mainmise des légumes cultivés sur les légumes sauvages. Hein. Vous voyez, c'est un peu comme la pharmacie sur la médecine par les plantes.
Je veux dire, c'est... On est plus rassuré en prenant un médicament.
Voilà, exactement. D'accord. Et on est plus rassuré en mangeant une belle carotte qui a été cultivée, qu'une racine un peu pas très bien faite. Et, voilà. Et qui aurait peut-être les mêmes propriétés alimentaires, vous voyez.
Alors aujourd'hui, et depuis de nombreuses années maintenant, certains se mobilisent pour rendre de nouveau le savoir accessible et puis permettre à ceux qui le souhaitent de consommer des plantes sauvages sans danger. Ce savoir, Patrick, il est indispensable parce qu'il ne faut surtout pas se lancer sans être préparé.
Absolument, absolument. Il faut au moins connaître déjà les plantes. Sans rentrer dans les détails, mais savoir que toutes les plantes se mettent pas à la bouche, parce que ça, ça peut être, il y a des plantes qui peuvent être brûlantes, qui peuvent nous brûler nos muqueuses, donc ça, ça peut être même dangereux. Des plantes que je ne goûterai absolument pas, alors que on peut goûter, par exemple, c'est pas une plante, mais comme tous les champignons, on peut les goûter.
D'accord.
Même l'anamide phalloïde. Il faut savoir goûter,
c'est-à-dire
et recracher ensuite.
Plante,
on ne peut pas faire ça.
D'accord.
Voilà, à moins de connaître parfaitement la plante et la goûter, mais ça, c'est en connaissance de cause. Et puis, savoir où on la ramasse aussi, ça, c'est très important. Donc, malheureusement, les bords de champs par chez nous sont assez pollués par des pesticides. Et les plantes, certaines plantes retiennent très très bien et en vivent d'ailleurs, retiennent très très bien ce genre de produits et qui peuvent être nocifs pour notre santé. Donc, ça, c'est.
Alors, justement,
faire très attention.
Quelles sont les règles de base à respecter ? D'abord, se former en botanique ? Un minimum ?
Oui, se former, et puis même si on ne connaît pas 3000 plantes, c'est pas grave. Même si il suffit d'en connaître ne serait-ce que deux ou trois, même si on ne veut pas vraiment se lancer dans la connaissance des plantes, il faut être sûr de ce qu'on va cueillir. Voilà.
Ouais.
On va cueillir des orties.
Oui.
On va pas se tromper, quoi, parce que l'ortie, il n'a pas trop de plantes qui lui ressemblent.
On pense souvent aux ombellifères quand on se méfie de la fameuse carotte.
Voilà,
la
fameuse carotte sauvage. Alors ça, effectivement, lorsque je parle de plantes sauvages, des gens comestibles, les plantes sauvages comestibles, je mets entre parenthèses les ombellifères, sachant que les ombellifères, on a la fameuse ciguë.
Et voilà.
Pour un connaisseur, la ciguë est très facile à identifier, mais pour quelqu'un qui est un peu en dehors de la botanique, il faut se méfier, et là je dis qu'il faut mieux laisser de côté les ombellifères.
Et quand on a un doute, on ne se risque pas, comme pour les champignons finalement.
Absolument, on ne se risque pas. Il y a des critères, alors c'est des critères peut-être pour les plantes je dirais pas plus difficile ni plus facile que les champignons, mais il faut que tous les critères convergent pour pouvoir identifier une plante. Oui, ça c'est indéniable.
Alors est-ce que ce savoir, il est facile à acquérir? En combien de temps est-ce qu'on peut se former? Et est-ce qu'il est quand même conseillé d'être accompagné au moins au début?
Alors oui, voilà, c'est intéressant, c'est de faire des sorties avec des gens... Des sorties sur le terrain avec des gens qui connaissent bien les plantes. Ça, c'est très intéressant. Et puis ça permet déjà de les voir, de les mémoriser. Ça, et puis d'avoir les petites astuces qui permettent de les reconnaître à coup sûr. Ça, c'est important, les sorties. D'ailleurs, c'est un peu pour ça que j'anime beaucoup de sorties. Je fais partager un peu ce que je sais sur les plantes. Alors on peut faire une sortie botanique, voilà, mais aussi on peut parler des plantes et en parler comme des plantes comestibles. Je pense que c'est un moyen de sensibiliser les gens sur la plante, sur le milieu naturel, et en même temps de retenir plus facilement, parce que la plante devient anecdotique. Et donc, on retient limite plus une anecdote qu'un grand discours un peu long.
Il ne faut pas se mettre en danger, mais il ne faut pas non plus mettre en danger la nature, donc on ne cueille pas à tort et à travers.
Voilà, on ne cueille pas à tort et à travers. Il faut, la nature, ce n'est pas un supermarché, il faut la respecter. Et puis, justement, ce genre de considération par rapport aux plantes, le fait qu'elles soient comestibles, etc., ça permet de faire attention à ce que l'on va cueillir, et puis de la respecter aussi, la plante. Ça, je pense que c'est important, c'est le respect... De la plante, puis du milieu naturel, ça c'est indéniable.
En
ça,
tout cas, on ne fait pas des razzias.
Non, les razzias, non, il ne faut absolument pas faire de razzias. Et puis, il faut savoir aussi qu'il y a des plantes qui peuvent être, entre guillemets, cueillables dans certaines régions et protégées dans d'autres.
Il faut aussi
savoir. Ça,
Alors, on va rentrer un petit peu dans les détails avec quelques exemples pour nos auditeurs. Peut-être la plante qui vous semble la plus accessible.
Ah, la plus accessible, c'est l'ortie. De toute façon, l'ortie, ça, c'est la plante indésirable. Donc, c'est le vieux petit canard. Et alors que c'est une plante merveilleuse. C'est une plante qui au niveau alimentaire, elle contient des protéines qui sont complètement assimilables par notre organisme. Et les 8 acides aminés qui vont avec, qui sont indispensables au fonctionnement de notre organisme. Donc ça, c'est une plante très importante. Elle est pleine de ciels minéraux. Voilà. Après, il faut la cuisiner.
Voilà, et puis j'entends déjà mes auditeurs me dire, mais comment je ramasse des orties?
Comment je ramasse des orties? Il faut la cueillir au bon moment. Voilà, c'est-à-dire que il faut pas aller chercher comme comme on fait actuellement des fraises en plein hiver. Ouais. Voilà, donc là on va cueillir l'ortie au bon moment, c'est-à-dire au printemps, c'est-à-dire par exemple c'était en plein confinement, au début du confinement, les orties étaient parfaites. Ils étaient tendres, c'est-à-dire que il y a des jeunes pousses d'orties qui viennent de sortir de terre, et là, l'ortie, bien sûr, pique, il piquera toujours, et donc, c'est là qu'on va ramasser les sommités, le bout de la tige qui est très, très tendre, et c'est ça qu'on va cuisiner. Sachant que l'ortie, c'est une plante fibreuse, quand même, dont on se servait à l'époque pour faire des cordages, donc vous voyez, avant le chanvre. On faisait des tissus avec. Et d'ailleurs, il y a une entreprise, je crois, en Allemagne, qui fait des tissus avec de l'ortie. Alors, c'est des tissus qui sont d'une douceur extrême. Ça ressemble un peu au lin, mais très soyeux. Enfin, c'est vraiment très intéressant. Vous voyez, donc, c'est une plante fibreuse. Et donc, les fibres, c'est pas très... Même si on a besoin de fibres alimentaires, c'est pas les fibres très intéressantes. Et on a retrouvé aussi, par exemple, c'était une plante qui était utilisée au néolithique, on a retrouvé dans une personne, Otzi, c'était le fameux homme du néolithique qu'on a retrouvé dans un glacier en Italie-Autriche, là. Et il avait le fourreau de son couteau était en ortie. On a retrouvé la pochette intacte. Ouais, donc il avait voyagé 5000 ans dans un glacier. Vous voyez, donc c'est aussi un matériau très solide. Voilà, donc si on revient à notre plante pour la manger, c'est...
Mais comment on cuisine l'ortie?
Alors, comment on cuisine l'ortie? Il y a plein de façons de la cuisiner. La plus simple, c'est l'utiliser un peu comme les épinards, c'est-à-dire la faire fondre. ramasser des orties, la faire fondre dans une gamelle, enfin, et ensuite on peut la faire une soupe avec, mettons de la crème, mettons quelque chose de sympathique, et voilà. On peut la consommer aussi crue. Alors lorsqu'on va froisser la plante dans ses doigts ou la piler dans un pilon, elle va complètement perdre son piquant. Mm-hmm. Quoi, son,
oui, on risque rien.
On trouve plus le mot, voilà. Oui, c'est ça. On va plus se piquer. Et là, on peut faire des petites tartinades mélangées avec
une sorte de pesto
d'ortie. Comme une sorte de pesto d'ortie. Voilà, je cherchais le mot, c'est ça.
Alors, quel goût ça a, l'ortie?
C'est un goût d'ortie, parce que je n'ai pas trouvé l'équivalent. La soupe d'ortie, ça sent une odeur très particulière qui est agréable et enfin pour moi et puis qui est j'ai pas l'équivalent de l'ortie. Par contre l'ortie, lorsqu'on va le cuisiner d'une certaine façon, lorsqu'il va commencer à réduire dans la poêle, par exemple, il peut y avoir une petite odeur de poisson très agréable. D'accord. un peu sol, comme il y a une autre plante qui fait ça d'ailleurs, qui est cette odeur de sol. La consoute fait la même chose.
Alors, on va peut-être passer à une autre plante. J'en avais une en tête parce que c'est pareil, on en parle beaucoup, c'est le pissenlit.
Ah, le pissenlit, oui. Enfin, le pissenlit, oui, c'est l'or du pré, qu'on appelle ça, l'or du pré. Alors, le pissenlit, pareil, en plein confinement, il était parfait. Il venait juste de sortir, les petites talles venaient juste de sortir de terre. Et donc, le pissenlit poussait dans mon jardin. Et on a pu faire quelques fois des salades de pissenlit, de jeunes pissenlits. Ah, pareil, il faut prendre les jeunes feuilles. Parce que la plante, ensuite, en vieillissant, devient amère. Alors, si on veut toujours consommer du pissenlit, malgré tout, pour éviter l'amertume, on peut aussi le faire cuire. Hein. Mm-hmm. Il y a des gens qui font cuire du pissenlit et l'amertume disparaît à la cuisson pour le pissenlit. Donc ça, voilà. Et avec ça, bon, pareil, on peut faire des salades de pissenlit agrémentées de petits lardons, etc. On peut s'amuser avec tant qu'on veut. Voilà. Et puis avec les fleurs de pissenlit, oui. Parce que les fleurs, là, c'est un peu fini, je crois. Oui. Bon, il y a eu une période de floraison. Si on n'a pas tout ramassé, les pissenlits dans son jardin à ce moment pour les manger jeunes, certains vont fleurir. Et on peut ramasser les fleurs pour faire une espèce de petite confiture de Franche-Comté qu'on appelle la cramaillotte. C'est la gelée de fleurs de pissenlit qui a un goût de miel, qui est une gelée un peu dorée, un peu
comme les fleurs.
Comme les fleurs, voilà.
Alors vous parliez du confinement, et bien moi pendant le confinement, j'ai découvert l'allière.
Ah, l'allière.
Et donc
oui.
J'ai pour la première fois cueilli des feuilles d'allière et j'en ai agrémenté mes salades.
Oui, alors, très bien.
L'allière, ça a le goût d'ail, c'est ça?
Alors voilà, l'allière, c'est une crucifère qui pousse plutôt dans les endroits un peu ombragés. Mm-hmm. On n'aime pas trop les endroits, les bords de chemin.
Moi, je l'ai trouvé dans un petit bois.
Voilà, donc, petit bois, c'est exactement son milieu. Vous voyez, les plantes ont chacun se mettent chacun chacune de leur côté. Alors, l'allière, c'est la famille des choux. Donc la famille des choux, c'est souvent des plantes un peu aromatiques. Hein, et l'allière, donc, d'où son nom, ça a le goût d'ail, et à condition qu'elle ne soit pas cuite. Parce que si on la cuit, ce goût d'ail disparaît totalement. Alors c'est très intéressant parce que pour les gens qui adorent l'ail, mais qui ne le digèrent pas trop, ou qui veulent après aller en boîte de nuit, prendre de l'allière, c'est très bien parce que c'est complètement digeste et puis ça aromatise de façon assez subtile. Hein. Je sais pas si vous avez
pu l'apprécier. J'ai apprécié. Apprécié.
C'est une plante vraiment qui est très sympathique.
Est-ce qu'il y a comme ça peut-être d'autres plantes auxquelles on ne pense pas, sont très assez communes finalement?
Assez communes, vous avez le lierre terrestre.
Ah oui.
Alors le lierre terrestre s'appelle courroie de Saint-Jean, je crois. Alors c'est une plante qui était en fleur au milieu du mois d'avril, par là. Alors c'est une plante qui est très traçante, qui longe les murs un peu sournoisement, etc., le bas des murs, et qui vient envahir vos plates-bandes, et les potagers aussi. Donc on l'arrache allègrement, mais c'est aussi une plante qui est très intéressante au niveau aromatique, parce que c'est la famille des menthes. Et c'est une petite plante
qui fait des jolies petites fleurs violettes.
Qui a des jolies petites fleurs violettes, voilà. Et c'est une plante qui est très aromatique. Toute la plante, lorsque Bon, elle durcit, effectivement. Pareil, comme les autres, un peu, elle devient un peu fibreuse lorsque le temps passe. Mais on peut toujours cueillir toute l'année. Et puis, au printemps, lorsqu'il y a les fleurs, on peut cueillir et les ciseler, par exemple, dans une salade, pour aromatiser la salade. Et puis, on peut aussi ciseler sur des chèvres frais que l'on a acheté chez Marsosseux, chez Rory. ça fait des choses très intéressantes ça, au niveau gustatif. Et puis pareil, c'est pas un goût que l'on connaît, c'est un goût vraiment très particulier et qui est très sympathique.
Un dernier exemple pour la route.
Ah oui, je vais vous citer la consoude, parce que les gens apprécient beaucoup la consoude. Alors la consoude, c'est une plante nitrophile, hein, c'est un peu comme l'ortie. La consoude, c'est une plante qu'on trouve dans les endroits très, très riches, au bord de l'eau, les endroits où beaucoup de matière organique. Alors ne pas confondre avec la digitale, mais la digitale, elle est plus dans les bois, elle est plus dans les endroits secs. Au bord de l'eau, on trouve cette plante très, très commune. Pareil, il faut ramasser les jeunes feuilles. Et on peut faire avec ce qu'on appelle de la sole végétale, c'est-à-dire qu'on met plusieurs épaisseurs de... Alors c'est des grandes feuilles qui font peut-être 20 cm quelquefois, que l'on peut empiler les unes sur les autres et les passer dans une pâte à beignet, pâte à crêpes, et les faire frire. Et au moment où ça va frire, c'est un parfum de sole, de poisson, mais très léger, très agréable. Et vous allez servir ça salé, bien sûr. Et voilà, c'est le bonheur, quoi.
Alors Patrick, pour terminer, on va peut-être préciser comment est-ce qu'on prépare ces plantes une fois qu'on les a cueillies. Qu'est-ce qu'il convient de faire?
Ah oui, alors ça c'est très important, bien sûr. Alors les plantes, dès qu'on ramasse les plantes, c'est un peu lorsqu'on vient cueillir une salade dans son jardin, on n'attend pas 15 jours avant de la manger. Hein. Bien sûr, il faut la manger la plus fraîche possible. Si on la fait sécher, il ne faut pas... pour le lierre terrestre, on peut faire sécher, par exemple, du lierre terrestre. Il faut le faire sécher dans un endroit sec et à l'ombre. Donc très ventilé, sec et à l'ombre. Et un peu comme lorsque vous cueillez du thym, du romarin dans votre jardin et que vous les utiliserez plus tard, sec, il faut les... Parce que lorsque l'on les fait sécher au soleil, effectivement, c'est plus rapide. Sauf que tous les principes actifs, toutes les essences contenues dans la plante vont disparaître au rayon ultraviolet. C'est moins intéressant. Et puis la plante va perdre en goût. Voilà, donc il faut... Et puis ensuite, le stocker, pareil, dans des pots, une fois qu'on est sûr que la plante soit sèche, dans des pots fermés, hermétiques, dans les endroits secs aussi, bien sûr.
Très bien. Voilà, on a initié nos auditeurs à la cueillette. Maintenant, il ne reste plus qu'à se lancer et donc cueillir et puis après préparer, se régaler.
Oui, voilà. Et puis faire appel, aller voir dans les associations, surtout, s'il n'y a pas toutefois des sorties qui sont... Là, bon, cette année, ça va être un peu dur, mais je pense que ça va très vite revenir.
Ça va revenir. Voilà. Merci beaucoup, Patrick, cette introduction et à bientôt sur Radio Grand Ciel.
À bientôt.
Merci beaucoup à Patrick Mullet qui nous a donné de précieuses pistes pour mettre un peu de vert dans nos assiettes. Patrick anime régulièrement, il l'a dit, des sorties nature sur ce sujet. Je ne manquerai pas de vous en informer. D'ici là, parmi les livres consacrés à ce sujet, je vous conseille un guide des éditions de Lachaud et Niestlé, Amis de toucher terre, dont nous reparlerons d'ailleurs dans quelques minutes. Elles ont sorti en 2018 un ouvrage intitulé « 300 plantes comestibles » dans lequel vous trouverez des clés d'identification sûres pour éviter les confusions, mais aussi des conseils de cueillette, de conservation et de préparation. Je vous conseille également le site Le Chemin de la Nature, fondé par Christophe de Audy, un site recommandé par nos amis des éditions La Salamandre. On y trouve notamment des articles concernant les propriétés gustatives et médicinales des plantes, avec des vidéos pour bien les préparer. J'ai mis le lien sur la page de l'émission. Et puis enfin, du côté de nos amis du Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire, on a élaboré un livret de recettes à base de plantes comestibles, un livret que vous pourrez télécharger, là encore, sur la page de l'émission. Dans quelques minutes, en effet, les éditions de Lachaud et Niestlé seront mises à l'honneur à l'occasion de la sortie d'un guide essentiel sur la faune des villes. Avant d'en parler avec ces deux auteurs sympathiques, une pause en musique cette fois. Voici Une aube sur la prairie par le guitariste Julian Lage. Red Prairie Dawn, morceau traditionnel américain, interprété ici par le guitariste Julian Lage, extrait de l'album World's Fair, sorti en 2015. Nous quittons les prairies pour le bitume, enfin pas tout à fait. Les éditions Delachaux et Niestlé ont sorti récemment un nouveau guide qui s'intitule « Faune des villes, 300 espèces qui vivent parmi nous ». Vous allez voir que les herbes folles jouent un rôle essentiel dans la présence de toutes ces espèces en milieu urbain, de quoi vous faire réfléchir si la récente période de confinement a fait de vous un maniaque de la tondeuse ou du taille-haie, ou si vous êtes de ceux qui trouvent qu'un terrain vague ou une friche, c'est sale. Présentation de l'ouvrage par nul autre que ses deux auteurs, l'entomologiste Vincent Albouy et le naturaliste et photographe André Fouquet. Grâce à eux, vous verrez... vous allez descendre dans la rue. Bonjour à tous les deux et merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Quelle belle idée que ce guide qui tombe à pic, si j'ose dire, alors que certains citadins ont appris pendant la période du confinement à ouvrir un peu plus grand leurs yeux et leurs oreilles. Avant de s'intéresser au contenu de ce guide, un mot peut-être sur vos intentions en le concevant. Pourquoi un tel projet et à qui s'adresse-t-il ?
Alors un tel projet, c'est parce que 80% de la population française est maintenant urbaine, donc si on veut intéresser notamment les enfants à la nature, ben c'est la nature sur le trottoir qu'ils vont commencer par découvrir, et ça s'adresse au grand public, donc évidemment à toutes les personnes habitant en ville, et pas forcément habitant en ville, puisque moi j'habite à la campagne, André aussi, mais on a souvent l'occasion de se déplacer et d'aller en ville, et moi personnellement, qui suis entomologiste de formation, je fais très souvent de l'entomologie urbaine.
Vous rappelez dans l'introduction de votre ouvrage que la ville est un espace vital pour de nombreuses espèces et vous faites notamment l'éloge des friches, des terrains vagues, de toutes ces parcelles qui sont laissées à leur sort et qui d'ailleurs ne demandent que ça. On y trouve des végétaux qui constituent la principale source de nourriture de ces espèces urbaines. Alors quels sont ces espaces interstitiels, comme vous les nommez, et pourquoi faut-il à tout prix les préserver ?
Il y a d'autant plus de vie qu'on laisse la bride à la nature. C'est-à-dire, dès qu'on essaye de la contraindre, de la tailler, de la faucher, de la planter, etc., ça diminue l'attractivité pour la vie sauvage. Et ces espaces, justement, sont les espaces où la nature s'exprime librement. Donc, la sélection naturelle joue évidemment énormément. Hein. Les conditions de vie en ville pour les végétaux ne sont pas les mêmes du tout que dans une forêt ou dans une campagne avec peu d'agriculture intensive, mais il y a toujours des végétaux qui s'adaptent à ces conditions-là. Et les végétaux, c'est vraiment le premier étage de la biodiversité, c'est eux qui nourrissent les autres. Mmh. Et donc c'est ainsi que la végétation est très importante pour attirer une faune, et c'est en fonction de la végétation qu'on aura une faune, notamment quand on parle des insectes et des petites bêtes, parce que pour les oiseaux ou les mammifères, ils peuvent venir de l'extérieur, ils se déplacent facilement. Mais en tout cas, insectes et petites bêtes dépendent strictement des végétaux qu'on va pouvoir trouver sur place.
Les collectivités s'investissent de plus en plus dans la préservation de la nature avec, par exemple, l'arrêt de l'utilisation de produits chimiques ou la création de nouveaux espaces verts. Mais ces nouveaux espaces naturels qui sont créés par les villes, par les communautés de communes, ils posent quand même question. On a l'impression d'espaces qui finalement sont vraiment très contrôlés, très aménagés, même si on peut y trouver des prairies, par exemple. Que pensez-vous de ça ?
C'est mieux que rien, parce que ça attire quand même... Une faune et une flore qui peut être intéressante. Tout dépend aussi de la gestion, c'est-à-dire évidemment si on passe la tondeuse tous les mois, c'est pas la même chose que si on fait venir un tracteur tous les ans pour faire les foins. Je vais passer la parole à André parce qu'il habite en Bretagne et il y a quelques villes en Bretagne, je pense notamment à Nantes et à Rennes, qui ont fait des expériences très intéressantes dans ce domaine-là.
J'allais citer cet exemple-là et des villes, je crois que c'est Rennes essentiellement qui a été la pionnière dans cette démarche, et qui laisse des zones totalement libres, ce qui a au départ un peu choqué les riverains, mais aujourd'hui les gens y sont habitués. À la difficulté, c'est de convaincre d'autres collectivités locales, oui. Que ce soit des communes ou des communautés de communes. Et par exemple, à cette saison-ci, il y a une catastrophe qui se produit tous les ans, c'est la fauche des sentiers. On nettoie de bord à bord, de talus à talus, au lieu de laisser qu'un espace au milieu et puis de laisser pousser les fleurs naturelles sur les bords. Donc plus de fleurs, plus d'insectes, plus d'oiseaux, voilà. On a fait propre, mais on a créé un désert.
Comment expliquer d'ailleurs, vous utilisez cette expression, on a fait propre, comment expliquer que pour beaucoup de citadins, faire propre, c'est tailler court?
Ça, je sais pas, c'est une histoire de culture peut-être, hein. Et il y a un écologue qui s'appelle François Terrasson qui a écrit il y a quelques années un livre qui s'appelle « La peur de la nature ». Les gens craignent un peu tout ce qui est sauvage, alors qu'en fait, s'ils allaient regarder d'un petit peu plus près, ils seraient sans doute émerveillés. Il faut les y aider un peu, et c'est à ça que sert notre livre également.
Alors les parcs communaux sont un autre habitat important pour les espèces urbaines. C'est là par exemple qu'on va retrouver les grands arbres. En termes de gestion, qu'est-ce que vous préconisez? On a souvent l'impression que les grands arbres en ville sont un problème et qu'ils sont à limiter comme s'ils étaient incompatibles avec le paysage urbain.
Les arbres, c'est ambigu parce que il y a souvent quand on parle d'abattre des arbres, vous avez souvent des mouvements de la population pour les protéger au contraire, parce que l'arbre a une forte valeur symbolique. Mais il faut reconnaître que l'arbre et la ville, c'est compliqué. D'abord parce que, évidemment, quand l'arbre est très grand et qu'il masque la façade d'un immeuble, les habitants de l'immeuble auraient envie que l'arbre disparaisse pour avoir plus de lumière, peut-être. Mais le problème, c'est plus entre l'arbre et, on va dire, les aménageurs, parce que quand on plante des arbres et puis qu'après, on n'arrête pas de faire des tranchées pour mettre du câble, du machin, du truc, et qu'on coupe les racines des arbres, on va les affaiblir. D'autant plus qu'ils sont sur des surfaces macadamisées où l'eau ne pénètre pas, donc ils vont être d'autant plus affaiblis, ils vont attraper des maladies. Et là, on va dire qu'il faut supprimer l'arbre parce qu'il est malade, etc. Donc la politique de plantation d'arbres, au moins d'alignement dans les rues, etc., c'est quand même très ambigu. Par contre, dans les parcs, le seul problème, c'est un problème dit de sécurité, c'est-à-dire les vieux arbres, on les abat parce qu'on ne veut pas avoir un procès si une branche tombe sur un promeneur. Et il y a certaines communes qui ont pris, ou collectivités en tout cas, qui ont pris des décisions de protéger des vieux arbres, mais à ce moment-là, d'empêcher l'accès aux zones où se trouvent ces vieux arbres pour pas qu'il y ait de problème de sécurité.
Alors les autres espaces auxquels on peut penser assez logiquement, eh bien ce sont les jardins des particuliers. Font-ils vraiment la différence et comment peut-on en faire des lieux d'accueil pour la faune et la flore urbaine?
En fait, un jardin chez soi, ça doit être quelque chose qui se rapproche le plus possible de la nature, avec la plus grande variété possible de plantes, des reliefs, des vieux arbres, des morceaux de souche, des choses comme ça. Tout ce qui peut à la fois nourrir et fournir un abri aux insectes notamment, également aux oiseaux.
Et donc on oublie peut-être de, par exemple, en cette période, de tailler les haies?
Par exemple, c'est une très mauvaise idée, et pourtant c'est ce qui se passe. Le confinement, ça a été un peu une catastrophe pour les jardins, parce que tout le monde a voulu en profiter pour tailler, tondre, nettoyer, et c'était pas forcément la bonne idée de faire ça à cette saison-là. Moi, ce qui me concerne, j'ai des haies que je taille, ne serait-ce que pour ne pas gêner mes voisins, mais j'attends le mois d'octobre pour le faire, quand je suis sûr que la nidification est complètement terminée et que les insectes ne seront pas gênés par cette démarche-là.
Donc ça demande aussi une certaine connaissance de la nature et votre guide nous y aide. Un mot, on parle là beaucoup d'espaces verts, mais un mot quand même sur les bâtiments et notamment les monuments. Je sais qu'à Chartres, on parle tous les hivers de notre fameux ticodrome Échelette. Donc ils peuvent être aussi des refuges pour les animaux?
Pour quelques animaux, vraiment très peu, mais on avait aussi, avant l'incendie en tout cas, les faucons de Notre-Dame à Paris par exemple. On a à Niort aussi, il y a le donjon et il y a un ticodrome Échelette qui est de temps en temps observé. Donc pour les gens qui ne connaissent pas, le ticodrome est un oiseau plutôt montagnard parce qu'il nidifie et il vit surtout sur les falaises. Donc évidemment, une tour, qu'elle soit de cathédrale ou de château fort, ressemble à une falaise et ça peut attirer une certaine faune. Enfin, c'est une faune très 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 réduite par rapport à ce qu'on peut trouver dans la nature. Mais grosso modo, si vous regardez une avenue bordée d'arbres avec des immeubles de 6-8 étages haussmanniens, on va dire, pour parler de Paris, ça ressemble à une vallée encaissée entre deux falaises. Il manque juste... L'eau a été remplacée par le bitume. Et donc, pour les oiseaux, ça veut dire quelque chose. Et il y a des oiseaux adaptés, par exemple les pigeons. S'ils prolifèrent à Paris, c'est qu'ils sont adaptés, leurs ancêtres sauvages nichaient sur les falaises.
En revanche, les immeubles modernes offrent beaucoup moins de possibilités notamment pour l'accueil des Martinets. On pourrait prendre un petit peu exemple sur ce qui se fait par exemple à Genève, où les architectes qui conçoivent des bâtiments neufs sont tenus de prévoir des espaces pour l'édification des Martinets, dans les bâtiments neufs, pas seulement pour la restauration des bâtiments anciens.
Revenons au guide que vous proposez, qui met donc en lumière 300 espèces animales, oiseaux, mammifères, amphibiens, reptiles et la grande famille des insectes sur laquelle vous insistez particulièrement, sans doute parce que déjà c'est une grande famille, mais aussi parce que vous êtes vous-même entomologiste chevronné, et puis parce que les insectes font partie de ces animaux qui sont peut-être les moins considérés par le grand public. En ville, on chercherait même plutôt à s'en débarrasser à la moindre occasion. Pourtant, ce sont des animaux essentiels et particulièrement sensibles aux changements imposés par l'homme.
Oui, les insectes, si on veut avoir beaucoup d'oiseaux, de toute façon, dans son jardin, par exemple, il faut avoir beaucoup d'insectes, puisque le deuxième étage de la nourriture, au-dessus des plantes, c'est la grande masse des insectes. Hein. Les insectes représentent au moins 80% de la biodiversité dans les villes, plantes et animaux confondus, donc on ne peut pas se passer d'eux. Après, évidemment, ils ont effectivement mauvaise presse, en tout cas pour certains d'entre eux. C'est vrai que certains sont gênants, hein. Je ne vais pas défendre les moustiques qui m'embêtent moi aussi la nuit. Ceci étant dit, ils ont leur rôle dans la nature, notamment celui de nourrir les hirondelles. Quand on fait de la démoustication massive, on a les hirondelles qui diminuent parce que c'est elles qui sont chargées dans la nature de manger les moustiques.
Alors on est surpris dans votre guide par la diversité des espèces présentées, par leur nombre aussi. Comment avez-vous fait pour les sélectionner? Est-ce que ce sont des espèces que vous-même avez cherchées et trouvées en milieu urbain?
Alors la sélection s'est faite sur leur fréquence, c'est-à-dire bon, le but c'est quand même que les gens puissent trouver dans le guide des animaux qu'ils croisent assez facilement dans la ville, mais de temps en temps on a quand même ajouté des espèces remarquables qui ne sont pas forcément très... très visible en ville, mais quand on les voit, on ne peut pas les oublier, aussi bien chez les oiseaux que chez les insectes. Mais il y en a beaucoup plus que ça. Alors, pour les vertébrés, je ne veux pas dire qu'on est complet, mais disons, il y en a une grande partie qui sont listées, au moins de ceux qu'on rencontre fréquemment. Par contre, pour les insectes, il y en a beaucoup plus. Et le choix s'est fait, on va dire, sur quelques villes. Marseille, Rennes, Paris, Lille, Grenoble, pour avoir plusieurs types de climats. Et on a pris les insectes qui étaient le plus souvent cités dans plusieurs de ces villes pour qu'il y ait un mix permettant à n'importe qui en France d'utiliser ce guide et de trouver des choses intéressantes par rapport à ce qu'il peut voir autour de chez lui.
Alors c'est un guide, vous le rappelez, grand public, qui entend en tout cas rester accessible, même si les experts que vous êtes n'oublient pas le contenu, loin s'en faut. Alors comment est-ce qu'on fait pour trouver le juste milieu dans les descriptions des espèces et de leurs habitats?
Ah, là, c'est compliqué. C'est ce type de livre, c'est frustrant et pour moi qui l'ai écrit et pour André qui a fait les photos, parce que on est contraint par des tout petites longueurs de texte. Les photos d'André qui sont superbes quand on les regarde plein pot, elles sont recadrées, généralement serrées et puis réduites à un timbre-poste. Donc c'est assez frustrant, mais c'est aussi ça qui permet d'en mettre beaucoup dans un guide et qui permet aux gens de le consulter facilement et d'identifier l'animal qu'ils ont devant les yeux. Donc il faut tenir compte de ces deux aspects.
Alors, un mot sur les photos, justement, André, je m'adresse à vous, là. Quels sont les éléments qui rendent une photo acceptable pour un guide? Il faut, j'imagine, qu'on puisse distinguer les critères d'identification.
Oui, alors, il se trouve que moi, j'ai une démarche photographique qui est un peu différente de celle des collègues qui présentent des photos pour les concours de photos. Moi, je privilégie un peu le côté naturaliste, c'est-à-dire que j'essaye d'abord presque... Quasiment toutes mes photos sont prises en milieu naturel, là où on trouve l'insecte. Mmh. Il est sur sa plante ou sur son arbre, ou, enfin bon, dans son milieu. Et puis, j'essaye d'avoir la plus grande plage de netteté possible pour qu'on puisse distinguer le maximum de caractéristiques de l'insecte ou de l'araignée. Parce que j'aime bien les araignées, figurez-vous.
Elle le mérite bien. Alors pour finir, quel conseil pourriez-vous donner aux naturalistes urbains amateurs? Comment et par quoi, par où commencer?
Suivez l'exemple d'André, ayez toujours à portée de la main votre appareil photo ou un téléphone qui permet de prendre des photos, et n'hésitez pas à prendre des photos de ce que vous voyez et ensuite d'essayer de les déterminer, et comme ça vous progresserez assez vite. Et on attrape assez souvent le virus de cette manière-là. Moi, je l'ai attrapé comme ça quand j'étais petit, et peut-être qu'André, c'est la même chose.
Effectivement, on commence souvent très jeune à être sensibilisé. Et il y a une autre école, en quelque sorte, c'est celle des associations de protection de la nature. Tout le monde a une association de protection de la nature près de chez lui. Dans ces associations, il y a des gens qui sont plus spécialisés dans certains domaines, notamment l'entomologie ou l'ornithologie. C'est en sortant avec ces gens-là qu'on apprend à regarder et qu'on apprend à identifier.
On rappelle souvent dans cette émission l'importance de cette transmission. Un grand merci à tous les deux pour cet entretien. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci, au revoir, Émilie.
Merci à Vincent Albouy et à son complice André Fouquet pour leur disponibilité. Je vous rappelle le titre du guide dont ils sont les auteurs, Faune des villes, 300 espèces qui vivent parmi nous, paru aux éditions Delachaux et Niestlé. 224 pages qui vous coûteront 22,90 € chez nos amis libraires du département, bien sûr. Pour finir cette émission, un petit rappel, l'association Eure-et-Loire Nature lance sa 4e année de recherche des gîtes estivaux de chauves-souris. Cet inventaire scientifique permet d'identifier les colonies de reproduction des différentes espèces de chiroptères fréquentant notre département afin de mieux les connaître et bien sûr de mieux les protéger. Si vous accueillez une colonie de chauves-souris chez vous, ou si vous disposez d'endroits propices à leur présence, comme des granges, des combles ou des caves, eh bien contactez l'association au 02 37 30 96 96, 02 37 30 96 96. Vous pouvez demander Thomas Bru, stagiaire qui s'occupe du recensement des gîtes cette année. Vous pouvez également envoyer un mail à asso@eln28.org. C'est la fin de ce 11e numéro de Toucher Terre. Dans un autre livre, Le pays où l'on n'arrive jamais, son plus célèbre prix Femina en 1955, André Dautel disait encore
« Si tu veux découvrir ce que tu cherches, Gaspard, tu dois tâcher de lire les signes qu'il y a dans les choses. Observe ces jardins, ces parcs, avec des massifs de fleurs, les carrefours des chemins. Peu de personnes les connaissent et ont l'occasion d'en parler. »
Nos amis naturalistes ont pu en parler aujourd'hui et vous ont permis de les connaître. À vous de les observer à présent, eux et leurs habitants, de les observer, de les protéger, de prendre le relais. Merci à celles et ceux qui ont participé de près ou de loin à cette émission et merci à vous, chers auditeurs. Vous souhaitant de belles découvertes, je vous donne rendez-vous le mois prochain et je vous rappelle que vous pouvez réécouter cette émission et les précédentes sur notre site internet radiograndciel.fr.